Marcel Godbout, donc agent culturel, secteur culture et patrimoine du Centre de développement de la formation et de la main-d'œuvre du CDFM. Donc, on va parler de leur volonté au Wendat de revitaliser la langue Wendat.
Bonjour, M. Godbout.
Kwai.
Kwai.
Ça va bien?
Oh, ça va très bien.
Donc, Marcel, il y a une volonté à Wendake et chez les Wendat de faire revivre la langue Wendat. Premièrement, pour situer nos auditeurs, on pense que c'est depuis quand à peu près que la langue Wendat est plus vraiment parlée?
Ça s'est fait graduellement, mais on parle fin des années 1800, là, début 1900, les derniers locuteurs fluides, là, malheureusement, s'endormaient là, avec la langue. Évidemment, une langue ne s'arrête pas progressive, s'arrête pas d'un coup, mm-hmm. Ça se fait de façon progressive, donc il y en a qui ont continué à parler la langue. Il y a des mots qui ont continué à se parler jusqu'à aujourd'hui, mais de pouvoir parler une langue couramment, comme on va le faire en entrevue présentement, en français, il faut oublier ça, c'est à peu près fin des années 1800, début 1900.
Quand on parle de, excusez-moi juste une seconde, quand on parle de Wendat, M. Godbout, pour un vieux comme moi qui étudie dans la petite école là, de l'histoire du Canada, c'est ce qu'on appelait les Hurons, hein?
Oui, tout à fait. Le terme Huron, en fait, on revient au terme Wendat beaucoup parce que le terme Huron, c'est une manière dont les autres nous ont nommés à partir de notre chevelure. Quand les Européens sont arrivés, entre autres les Français, ben, ils ont vu notre chevelure chez les hommes qui ressemblait à une bande de cheveux noirâtres, là, qui s'était rasé ses côtés, mais une bande de cheveux noirâtres qui partait là, du front, si vous voulez, jusqu'à l'arrière de la tête, là, avec les cheveux longs noirs, qui faisait référence à ce qu'on appelle un terme en français qui est la hure, pour dire une bande de cheveux, comme c'était la bande de poils chez le sanglier, surtout la femelle, c'était plus prononcé. Donc, ils ont fait le lien, hure, huron. Et ils nous ont toujours appelés de cette façon-là à cause de notre coiffe.
Ben, vous vous êtes fait voler parce que dans le milieu anglophone, on appelle ça un Mohawk.
Oui, il y a plusieurs appellations en fait. Ben, fait que depuis ce temps-là, les gens nous ont appelés Huron Huron, mais vous comprendrez que c'est sûr que pour nous, maintenant, on appelle la nation Huron Wendat, mais nous, on aime bien utiliser le terme Wendat, ben, parce que c'est la manière dont se définit qui est.
La première fois que je le comprends aussi bien. Merci.
Ça fait plaisir.
Puis, Marcel, tu nous disais qu'il y a quelques mots qui ont poursuivi, qui ont continué à survivre. Est-ce que tu as des exemples de ces quelques mots-là qui ont perduré jusqu'à aujourd'hui?
Ben c'est difficile, je pourrais pas faire toute la nomenclature de ces termes-là, mais il y a beaucoup de mots comme entre autres des salutations, koué. Il y a aussi, parce qu'il y a des chants qui se sont perpétués aussi tranquillement, aussi beaucoup de chants religieux, donc la langue a continué à se vivre à travers ces chants religieux-là, catholiques, à l'Église.
Okay.
Il y a beaucoup de mots aussi qui ont continué tranquillement à se dire avec le temps. Mais c'est sûr que ça commençait à devenir en dormance, ce qu'on appelle. J'aime pas dire qu'une langue est morte, parce que c'est pas notre cas. Quand une langue est considérée comme une langue morte, contrairement à nous, une langue endormie, c'est quand il n'y a plus du tout de traces d'écrits qui nous permettent de pouvoir poursuivre cette langue-là. Dans notre cas, c'est qu'on a environ une dizaine, là, jusqu'à maintenant, là, disons 10-12 documents qui nous provient principalement des jésuites. C'est des lexiques, des manuscrits, si vous préférez,
oui.
Dans lesquels, là, on a les traductions des mots français en Wendat et vice-versa. Puis on a même 3 grammaires qui ont été rédigées par les jésuites parce que leur objectif, c'était de nous évangéliser. Mais pour passer le flambeau à d'autres jésuites, ben, il n'y avait pas le choix d'avoir ces documents-là tout près pour qu'ils apprennent la langue, pour pouvoir nous évangéliser par la suite. Donc nous, on se sert de ces documents-là. Là.
C'est un peu paradoxal. L'outil de colonisation est un outil maintenant de revitalisation de la langue.
Oui, ça s'appelle du judo.
T'as bien dit ce que je pensais.
Puis, est-ce qu'il y a d'autres Wendat ou Winandot, par exemple, je pense qu'il y en avait qui sont allés au Kansas puis plus dans l'Ouest aussi, hein?
Oui, tout à fait. Nous, les Wendat, à un moment donné, pour X raisons, On s'est séparés en différents groupes, comme c'est le cas de plusieurs communautés aujourd'hui. On retrouve des communautés un peu éparpillées, mais qui représentent une nation sur un territoire.
Oui.
Ben nous, c'est la même chose, à peu près dans le coin des années 1649-1650. Il y a un groupe de Wendat qui a décidé de continuer, mais de revenir à Québec, qui était aussi un des lieux traditionnels pour nous sur notre territoire. Et d'autres gens ont décidé, une grande partie, ont décidé aussi de s'en aller vers le sud. Donc, en fait, différents parcours, grosso modo, pour atterrir à Détroit, au Kansas et en Oklahoma. Okay. Mais maintenant, aux États-Unis, il y a juste en Oklahoma qui sont reconnus par le gouvernement américain comme étant une nation autochtone, qui se nomme eux autres Wyandot, qui est une déformation du terme Wendat.
Et si vous avez...
la langue jusqu'à les années 60.
Ah, ils l'ont parlé jusqu'à dans les années 60. Donc, il doit y avoir plus de traces écrites qui pourraient être utilisées dans votre effort de revitalisation là-bas.
Ah, tout à fait. Nous autres, c'est sûr qu'on communique avec nos frères et sœurs de là pour... utiliser des documents aussi, mais il y a un petit dialecte différent pour les Wendat qui sont au sud, parce qu'ils sont alliés à d'autres nations iroquoiennes, comme entre autres les Français les appelaient les Pétuns, c'est des gens du tabac finalement, nous on les appelait les Tsunantatironon, les gens de la montagne, et ces gens-là, c'est un groupe principal qui s'est allié beaucoup avec les Wendat. Et en étant ensemble, ils ont continué à s'appeler Wendat, c'est devenu Wyandot, une déformation de force. Mais ces gens-là sont un mix des deux. Donc, c'est pour ça que la langue est un petit peu différente. C'est comme un dialecte, si vous voulez.
Comme historiquement, vous êtes allé à Détroit, les Wendat. Est-ce que Pontiac était Wendat?
Pardon?
Pontiac n'était pas Wendat?
Non. Condiaronc, qu'on a bien connu, était un Wendat, oui.
Savoir, c'est tout.
Non, ben, pas, c'est qu'il y a aussi des nations Anishinaabe dans ces régions-là. Si je me rappelle bien, il était plus dans les nations algonquiennes Pontiac.
Mais, OK, on va laisser Pontiac, excusez-moi.
Maintenant, si on revient à l'effort de revitalisation, c'est comment que ça a commencé à Wendake, qu'on appelait encore jusqu'à il y a quelques années le village Huron?
Ah ben écoutez, c'est un long processus tout ça, hein? Ça se fait pas d'un coup, là.
Oui.
C'est un long processus et nous, ce qu'on remarque, écoutez, c'est que même si la langue s'est endormie début des années 1900, on a fait un recensement un petit peu dans les résolutions du Conseil là, qui continuait à se voir dans les années 1900, à se rencontrer, prendre des décisions, et on voit que les gens de la communauté parlaient de vouloir réapprendre cette langue-là, de voir la faire revenir, l'éveiller à nouveau. Mais il faut attendre pas mal vers la fin des années 80 où c'est vraiment une volonté de la part des citoyens, là, des gens de la communauté, qui des efforts personnels, individuels, de gens qui ont décidé de dire « c'est assez, là, on en parle, ça fait longtemps qu'on en parle, mais là, faut passer à l'action ». Et il y a des gens qui ont commencé à donner un mouvement à tout ça de début des années 80 à environ. Et il faut vraiment attendre le début des années 90 où là, le Conseil, sous l'institution du Conseil de la Nation, il va reprendre ça en charge, mais il faut attendre à peu près dans les années, il y a eu une petite pause, et là, c'est repris vraiment dans les années 2000. Et là, c'est là que la fusée est partie, comme on dit, là. Depuis ce temps-là, on n'a pas arrêté.
C'est qui a obtenu ce mandat-là dans l'appareil gouvernemental Wendat? C'est l'éducation, l'école primaire, le CDFM, comme toi, tu travailles au CDFM, mais il y a aussi une école primaire à Wendake.
Tout à fait. C'est parti de l'école, maintenant qu'on nomme l'école primaire Warta, qui veut dire érable dans notre langue. Donc, c'est à partir de ce lieu-là là, qui était la langue est devenue sous la direction de si vous voulez, de l'école Warta. Et c'est là qu'elle a commencé à frayer son chemin pour voir là, ce qu'on voit aujourd'hui, là, le développement de la langue comme on le voit aujourd'hui. C'est à partir de là, mais après ça, c'est le CDFM qui a repris ça en charge. Parce que CDFM, il y a le secteur de la formation, de la main-d'œuvre et de l'emploi, mais c'est ajouté aussi le secteur culture et patrimoine, ainsi que celui de la langue Wendat. Alors, depuis ce temps-là, ben, le secteur de la langue maintenant est géré et développé par le CDFM. Donc, depuis ce temps-là, c'est le CDFM là, qui développe, si vous voulez, le secteur de la langue.
Marcel, quand je vois les démarches que vous avez entreprises au cours des années, il est question de standardisation et de l'écriture et de la phonétique. C'est-tu comme l'Académie française, ça?
ça sonne comme ça, hein? Ben oui, tout à fait. Écoutez, nous, dans notre cas, il faut pas oublier que les langues des Premières Nations, c'était des langues qui, avant tout, c'était des langues dites orales. Là. C'est-à-dire que c'est par l'oralité qu'on échangeait. Il n'y avait pas d'écrit vraiment au niveau de la langue. Donc, c'est vraiment avec l'arrivée des Européens qui avaient cette façon-là d'ajouter l'écrit à leurs propos que, évidemment, en étant dans une société plus générale, pluraliste, là où l'écriture va de soi, ben c'est là qu'on dit ben tous les peuples des Premières Nations ont décidé de créer leur propre écriture. Et nous, ben on a décidé de faire la même chose de notre côté. Fait qu'on dit ben tant qu'à l'utiliser au niveau de l'écrit, ben on repart à zéro là, ou presque. On peut choisir la manière de l'écrire, nos caractères, puis en partant de l'étude de nos sons, qu'est-ce qu'il y a dans notre langue. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, on a ce qu'on appelle fait la standardisation d'écriture. C'est un bien grand mot qui veut juste dire qu'on choisit des termes afin de signifier ce que veut dire des sons, mm-hmm. pour exprimer des sons. Comme exemple, pour le « ou », on a décidé de faire comme en français, « ou ». Donc, quand on voit dans la langue en Wendat, au U, qui se suit ensemble, c'est le son U, et ainsi de suite.
Oui, c'est efficace, en tout cas.
Oui, tout à fait, puis ça a été des fins de semaine, là, parce que c'est parti d'un comité, vraiment un comité bénévole là, de la communauté qui a été créé dans le but là, de répondre à certains besoins, de prendre des décisions communautaires. Parce qu'on sait que certaines décisions, il faut qu'ils viennent de la communauté. Ce n'est pas aux linguistes à décider de la destinée culturelle ou linguistique de certains choix communautaires.
Est-ce que les linguistes sont au courant?
Oui, tout à fait. Nous, on était accompagnés dans la démarche par des linguistes, mais la décision finale vient de la communauté. Les linguistes sont là pour dire, ben, attention, si vous prenez tel symbole, quand on va arriver plus loin pour dire tel son, on peut avoir des problèmes de confusion. Donc, il faut faire attention là. Donc, il y aurait cette possibilité-ci, celle-là ou celle-là, pour dire ce son-là. Fait que là, la communauté essayait de prendre le meilleur choix, mais on s'est assiné là, de longues fins de semaine avant d'arriver à la standardisation qu'on a actuellement, qui est entérinée par le Conseil de la Nation.
C'est quoi le rôle du Conseil de recherche en sciences humaines et de l'Université de Laval dans ce projet?
Oui, ben en fait, ça a été le coup d'envoi, hein, parce que vous savez qu'au niveau parce que vous avez beaucoup d'entrevues avec des gens qui travaillent au niveau de la langue, puis vous voyez là que ce que les gens disent toujours, c'est on n'a pas de sous. C'est ouais. difficile d'avoir des sous au niveau des langues des Premières Nations pour développer selon où on est rendu, parce qu'on est rendu tout à des places différentes. Mm-hmm. De respecter ce niveau de développement-là et de pouvoir développer selon ce qu'on souhaite avec les compétences qu'on choisit d'utiliser au niveau des ressources ou autres dans nos propres communautés. Et chez nous, ben c'est un petit peu ça qui est arrivé. Et là, finalement, ben il y a des gens qui ont travaillé sur des modèles de subvention et là, finalement, il y en avait une par la RUC. Je suis pas familier tout avec les acronymes, là, mais c'est un genre de chaire de recherche universitaire. Et qui provient justement au niveau des sciences humaines, comme vous le dites. Et on s'est associé avec... il fallait s'associer avec une université Laval.
OK.
Donc, on l'a fait avec l'université, dans ce cas-là.
Et, vu que c'est quand même proche, en plus, au point de vue physique.
Ah oui, tout à fait. On est à 20 minutes près de l'université par l'autoroute. Et c'est ça, dans dans cette aventure-là, ben l'université, c'est 5 ans là, qu'on a eu un projet de 5 ans ensemble. On a eu 1 million sur 5 ans. Qui devait être dépensé selon des critères. Mais ce qui était formidable dans ce projet-là, c'est, tu sais, Alexis, aussi, aujourd'hui, comme Première Nation, ce qu'on souhaite beaucoup dans le processus de décolonisation,
oui.
puis de réconciliation, c'est d'impliquer les Premières Nations dans leur processus.
Puis qu'on soit décideur.
Tout à fait, exactement. Et non pas qu'on pense bien faire, agir au nom et pour les Premières Nations. Il faut les impliquer dans le processus de décisionnel. Ça leur appartient, c'est leur langue. Donc, c'est ce qu'on a fait, nous. Et l'Université Laval a été vraiment, par le biais de Jacques Doré, là, qui est un anthropologue. Monsieur Doré a été une personne vraiment clé là-dedans, qui a été une personne très respectueuse, où il nous demandait où on voulait aller, puis il nous aidait tout simplement à faire des choix là-dedans. Et ça a été une personne très respectueuse qui nous a permis de choisir des bons chemins, puis aussi, surtout qu'on puisse décider, qu'on soit les propres décideurs de notre destinée pour la revitalisation de notre langue.
Hey Marcel.
Et depuis ce temps-là, ça va très bien.
On va prendre une petite pause musicale. On va parler des perspectives d'avenir maintenant.
Excellent.
Oui, on est de retour avec Marcel Godbout, agent culturel,
quelle démarche,
culture, patrimoine du Centre de développement de la formation et de la main-d'œuvre, le CDFM.
Quelle démarche de retrouvailles avec sa langue. C'est chose magnifique de retrouver sa propre langue qu'on avait, qui s'était effacée un peu avec le temps, et de la retrouver comme ça, je trouve que c'est une démarche absolument fascinante et stimulante aussi.
Oui, tout à fait. C'est sûr qu'il faut il faut toujours garder le cap. Là. Des fois, je dis souvent, quand on regarde la montagne, c'est comme si on était en train de se rendre à l'Everest. Là. Monter l'Everest, pour au bout, c'est là où on souhaite notre souhait vraiment, qui est de reparler la langue, évidemment, de façon courante. On se dit, mon Dieu, qu'il y a un chemin long à parcourir. Mais des fois, ce qu'on oublie de faire, c'est de s'arrêter, de changer de bord, puis de regarder à l'arrière le chemin parcouru. Puis dans notre cas, je pense qu'on est vraiment fiers là, du chemin parcouru. C'est sûr que quand on regarde en avant, on dit « Mon Dieu, qu'il en reste encore long à faire », mais faut tenir bon, puis il ne faut pas lâcher. Puis on a beaucoup d'encouragement des autres Premières Nations qui nous disent « Lâchez pas, vous avez du courage ». Mais c'est de s'entourer des bons éléments pour pouvoir développer la langue. Puis on reste positif, là. On a beaucoup de signes de positivité là, au niveau du développement de langue, puis on est très content.
La récompense ultime, c'est que les Wendat apprennent la langue, les jeunes comme les plus âgés. C'est ça qu'on vise.
Oui, c'est sûr ce qui est visé au bout de compte. C'est vraiment d'éveiller la langue pour que l'entrevue, exemple, qu'on fait présentement, ben, qu'on puisse la faire uniquement en Wendat. Donc, c'est vraiment le but recherché, là, parler la langue fluidement.
Ouais, comme j'ai des origines Wendat, je pourrais peut-être m'y mettre aussi.
Tout à fait, Alexis, on te connaît bien. Oui, en effet, tu pourrais faire partie du groupe de locuteurs. Ça serait un beau mélange, l'Abenaki, le Wabenaki et le Wendat.
La Benaki aussi, où on fait des efforts de revitalisation, là, on aurait, je pense, par exemple, à s'inspirer de toute la démarche de s'associer avec une université, aller chercher des fonds comme ça. J'ai remarqué aussi, je ne sais pas si sur le terrain, c'est quelque chose que tu as remarqué, la loi fédérale sur les lois autochtones, est-ce que tu penses que ça donnait un coup de main dans les efforts de revitalisation? Est-ce qu'on a développé des nouveaux programmes de financement par rapport à ça?
Ben écoute, nous autres, de ce qu'on sait, c'est sûr que la loi, c'est tout nouveau. Hein. C'est sûr qu'une loi, c'est important parce que ça vient affirmer quelque chose au point de vue légal. Donc, déjà là, ça peut devenir un bon levier intéressant. Mais ça dépend comment aussi la loi est traduite. Malheureusement, là, je connais pas tous les actes de loi qui sont liés à la langue, mais déjà là, on reconnaît qu'il y a des langues des Premières Nations, puis que c'est important de les préserver et autres. Et des fois, il faut voir jusqu'où cette loi-là permet d'aller aussi dans l'aide ou plutôt les responsabilités qu'on a, que le gouvernement fédéral a vis-à-vis des Premières Nations. C'est pas toujours évident. C'est un dossier plus politique aussi. Je vais laisser ça aux politiciens. Mais ce que je peux dire de ce côté-là, c'est que c'est sûr que ça peut pas faire de tort d'avoir une loi au contraire. Ça met en évidence les choses. Il y a une reconnaissance qui est faite là. Mais je pense que tout passe par les sous. Il faut se dire les vraies choses.
Il faut avoir des moyens et nos ambitions.
Oui, mais non seulement ça. Si on veut développer des projets de langue sérieux, vous savez, dans certains domaines, on a besoin de se créer des plans, une planification à long terme. Donc, pour ça, il faut savoir les sous qu'on a à notre disposition pour engager des gens, des ressources compétentes dans le domaine pour justement pouvoir nous aider à développer. Et ça, ça prend une bonne capacité là, financière, et d'un, et de deux, des fonds qui vont être récurrents pour qu'on puisse faire une planification à long terme, puis engager des ressources qui vont demeurer dans le processus,
ouais,
puis qui vont nous permettre d'avancer. Et de ne pas avoir des critères aussi qui font en sorte qu'on lutte contre d'autres Premières Nations entre nous autres pour les mêmes raisons, qui sont des raisons primordiales. C'est nos langues. Là. Ça n'a pas de bon sens de lutter entre nous autres pour avoir des subventions. Il faudrait que ça soit remis direct aux communautés. Mais je pense que ça s'en vient dans ce sens-là. Là. Il y a beaucoup de développement au niveau de patrimoine canadien, mais vu que je me connais moins, je vais être prudent de ce côté-là. Mais je vous dirais que les choses semblent très positives là, au niveau du secteur des langues, là, au niveau du fédéral, qui est Patrimoine Canada là, qui gère ça présentement.
Marcel Godbout, quelles sont les mesures concrètes là, que vous mettez en branle actuellement pour l'enseignement de ces langues-là aux plus jeunes, aux adultes? Est-ce qu'actuellement, il y a un mécanisme d'enseignement?
Oui, tout à fait. Nous, on a commencé à enseigner depuis 2010. Mais là, attention. Je mets un bémol là-dessus. Quand on parle d'enseignement, il faut être très transparent vis-à-vis des gens. Là. Écoutez, notre processus, nous, c'est qu'à mesure que notre linguiste, qui, elle, à mesure qu'elle apprend, qu'elle en connaît plus sur notre langue et qu'elle standardise et reconstruit des mots, ben, elle nous donne tout ce bagage-là d'informations pour que nous, les enseignants, on puisse prendre ces informations-là et le passer aux gens là qui aux apprenants. Donc c'est comme ça on procède. Est-ce qu'aujourd'hui les professeurs qui sont engagés parlent la langue couramment? Pas du tout. C'est comme on a différents niveaux de langage. Puis je vous dis là, on est vraiment dans les tout débuts balbutiements là de parler une langue. C'est là où on se situe. Ce qui est encourageant, c'est de voir le nombre de personnes dans la communauté là qui sont engagés là-dedans. L'école s'enseigne au CPA oral. Elle s'enseigne à l'école Wata primaire. Mmh. Elle s'enseigne aux adultes de soir. Il y a plusieurs gens dans la communauté qui apprennent les langues. On a depuis 2 ans, cette année, ça va se donner encore, un programme immersif durant l'été en langue et culture pour nos jeunes.
Marcel,
donc, écoutez, le meilleur est à venir, là.
En terminant, est-ce qu'il y a aussi des outils pour ceux, parce qu'on sait que la nation Wendat est aussi très dispersée, ceux qui ne vivraient pas proche de Québec, est-ce qu'il y a aussi moyen de pouvoir...
Oui, ben, écoutez, c'est drôle que tu me parles de ça, Alexis. Justement, on donne des cours présentement par Zoom. Évidemment, la pandémie nous a ouvert vers un autre monde.
Oui.
Et là... Justement, nous, on rejoint tous les gens hors de la communauté.
Marcel, je vais te dire Tiawak. Est-ce que c'est la bonne façon de dire merci?
Oh, Tiawak.
Tiawak. Tiawak.
Merci.